Être un marketeur B2B, c'est être constamment balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge, sans compter les relations avec les sales et le CEO. Mais tu n'as pas à être seul. Entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, ex-responsable marketing et solopreneur, créateur du Café du Market, la communauté francophone réservée aux marketeurs B2B. Avec ce podcast, j'ai créé le contenu que j'aurais aimé écouter pour progresser encore plus vite quand j'ai pris mes premières responsabilités. On y débriefe les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou rejoindre directement la communauté pour échanger avec des pairs et donner un coup d'accélérateur à ta carrière. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et si tu entends des discussions intéressantes, sers-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, Seplezy. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisée à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec de nouveaux contenus. Là où Seplezy est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Investir sur la marque et la notoriété, c'est rarement l'un des premiers choix pour les startups qui ont plutôt tendance à consacrer leur budget à des canaux d'acquisition un peu plus directs et dont le ROI paraît directement mesurable, type les ads. Pourtant, ça peut donner des résultats intéressants et je suis aujourd'hui avec Pauline Juvigny, qui est marketing manager chez Tandem et qui va justement nous partager un petit peu comment est-ce qu'ils ont approché ce sujet-là. Bonjour Pauline.
Salut Axel.
Ça va ?
Ça va et toi ?
Très bien. Écoute, je suis ravi de t'avoir sur le podcast parce qu'on en a parlé un petit peu ensemble et puis tu étais passé chez Léa Guénifet sur l'effet marketing, sur un sujet que je trouve très intéressant. Donc, je suis trop content de pouvoir en parler avec toi.
Ouais, c'est super.
Est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques mots juste pour ceux qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît ?
Yes. Donc, comme tu l'as dit, je suis responsable marketing chez Tandem. Tandem, c'est une entreprise qui propose des vélos de fonction aux autres entreprises. Ça fait à peu près 1 an et demi que j'y suis. Et ça fait à peu près 3 ans et demi que je travaille dans le secteur du vélo, parce que j'étais déjà dans ce secteur avant d'arriver chez Tandem. Tout simplement parce que je cherchais un job qui avait du sens, qui pouvait avoir un impact dans le contexte environnemental qu'on connaît tous. Et on sait que les transports, et notamment notre mobilité individuelle, peut avoir un énorme impact. Donc, c'est la raison pour laquelle je travaille ce beau secteur qui est le vélo.
Ouais, c'est clair. Non, mais tu le dis, moi je suis dans la ville reine de la voiture individuelle, tu vois, je suis à Marseille, et du coup c'est vrai qu'on le voit beaucoup, dès qu'il faut insérer un petit peu de vélo, ça râle pas mal, alors qu'en fait t'as les 3/4 des gens qui prennent la voiture pour faire 1,5 km, quoi.
Bref, je peux même te donner le chiffre exact, c'est 52% des trajets qui font moins de 2 km qui sont faits en voiture.
Ouais, voilà. Bon, du coup, typiquement, effectivement, c'est sûr que, évidemment, tu l'as la stat. très cool. Mais bon, on n'est pas là pour parler environnement, même s'il y aurait plein de choses à dire et je suis le premier en plus intéressé. Mais là, aujourd'hui, on va essentiellement parler branding, du coup. Donc, je le disais en intro, mais c'est vrai que c'est rarement un sujet sur lequel on va investir très tôt la marque. Pourtant, bon, clairement, ça a des effets quand même bénéfiques. Chez Tandem, c'est l'un des premiers investissements marketing que vous avez fait, qui était en cours d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, au moment où toi, tu as été recruté aussi, où tu es arrivé. Enfin, en tout cas, c'est le sujet que tu vas nous raconter. Est-ce que tu peux me donner un petit peu le contexte sur les enjeux qui vont pousser à investir sur ce sujet-là ?
Ouais, je vais commencer avec une anecdote que j'aime bien raconter. Donc, il faut savoir que moi, ça fait 1 an et demi que je suis chez Tandem, mais Tandem existe depuis 2020 et a été cofondé par Arthur et Nicolas. Et la première vraie dépense marketing à l'époque où vraiment Tandem avait quelques semaines ou quelques mois, ça a été un shooting photo pour mettre en avant les vélos du catalogue. Parce que donc, nous, on propose des vélos aux entreprises. On a un catalogue avec une sélection assez restreinte de vélos haut de gamme. Et donc, la première dépense a été un bon gros shooting fait maison, mais quand même avec un photographe professionnel pour poser les bases finalement de l'esthétisme de Tandem et de la marque, des prémices de la marque en tout cas. Donc, pour quelle raison ? Parce que le vélo de fonction n'est pas un concept qui est encore très connu, même si c'est de mieux en mieux avec le temps. Donc, il y a une vraie nécessité d'éduquer et à minima de projeter l'usage. Et donc, pour ça, quoi de mieux que montrer des très beaux vélos et l'usage de ces très beaux vélos via ce shooting. Et donc, comme je disais, ça a un peu posé les bases de la marque. Et c'est aussi ce qui nous a permis de nous démarquer sur un marché qui est déjà concurrentiel. On a pas mal d'autres acteurs sur les services de vélo de fonction. Mais on reste sur du B2B. Le secteur du vélo est aussi un petit peu vieillot. Et donc, investir sur la marge nous permet d'une, de renouveler l'image, mais de deux, du coup, de se démarquer cet environnement-là. Et puis finalement, c'est aussi promouvoir le vélo au sens large, toujours dans ce contexte environnemental où on a envie qu'un maximum de personnes se déplacent à vélo plutôt qu'en voiture.
Ok, donc effectivement, tu disais, en fait, il y a des enjeux d'un secteur qui est vieillissant, avec des codes qui le sont aussi, du coup. Et se travailler la marque, en fait, c'est un moyen, du coup, de s'extraire un petit peu de la concurrence par rapport à ça, en projetant une image un petit peu, enfin, luxe ou haut de gamme, ou en tout cas visuelle aussi, qui met le vélo en valeur et qui va, du coup, en fait, comme tu disais, valoriser un petit peu le produit et sortir, au final, du lot de ce qui était fait par rapport avant, quoi.
C'est ça, c'est modernisé par l'image, en quelque sorte.
Ouais. Très cool. Du coup, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. On disait que vous avez travaillé rapidement le branding. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez inclus dans cette plateforme de marque, dans les premiers travaux? Parce que tu parles d'un shooting, mais du coup, le travail après, il a été un petit peu plus large sur la plateforme de marque. Comment ça s'est passé? Et c'est quoi, en gros, j'allais dire pas un peu la minimum viable brand, mais un peu quand même, tu vois, c'est quoi les premiers sujets à travailler pour construire sa marque, justement?
Nous, ça s'est fait plutôt au fur et à mesure. En fait, il y a eu, je pense, deux ou trois étapes qui ont permis d'arriver à peu près à ce qu'on a aujourd'hui de la marque. La première étape, c'était effectivement ce shooting. Ces shootings ont été de plus en plus fréquents. Donc là, on en a déjà quatre à date sur une entreprise qui est assez jeune, mine de rien. Et très rapidement, Arthur, quand il était tout seul sur la partie marketing, a travaillé une sorte de première charte graphique, donc vraiment la partie visuelle. On n'est pas encore sur le tone of voice ou quoi, juste de quoi faire un site à peu près chiadé qui permette aux clients de vraiment se projeter et de comprendre ce que faisait Tandem finalement. Et très vite aussi, sur les premières livraisons, Arthur et Nicolas ont eu le réflexe de prendre des contenus clients, donc des contenus de la livraison, des clients qui essayaient leur vélo, qui testaient leur vélo, donc vraiment une première partie finalement très visuelle, pas encore trop liée à la tonalité et aussi très informelle entre guillemets. Donc ça se jouait entre Nicolas et Arthur qui étaient les deux seuls à travailler pour Tandem au début. Puis j'ai été recrutée dans un moment d'accélération pour Tandem, le but étant de rendre un peu tout ça de plus en plus pro. Donc on a fait ce qu'on appelle un brand sprint en interne, pour faire émerger d'autres éléments de la marque. Donc une vision, une mission, un why, pour vraiment avoir quelque chose qui s'ancre un peu plus dans le long terme et sortir de quelque chose de très fonctionnel lié à la charte, lié au visuel, mais un peu plus, ouais, finalement prendre de la hauteur sur tout ça.
Comment ça se passe à un brand sprint du coup?
Alors, on a souvent plusieurs petits exercices. L'idée, c'est vraiment de... C'est de ne pas imposer une marque aux personnes qui sont déjà recrutées, qui participent déjà au développement de Tandem. C'est plutôt de faire émerger une marque de l'intérieur, finalement. Donc pour cette raison, on a souvent, moi en tout cas, c'est comme ça que je fais. Je regroupe au maximum les personnes qui travaillent pour l'entreprise. Donc là, en l'occurrence, Tandem, on n'était pas nombreux à l'époque, donc c'est l'idéal. Sinon, on essaie de trouver des personnes un peu clés dans la boîte et à tous les niveaux, surtout. Parce que l'important, c'est vraiment que ça représente l'entreprise au sens large. Donc on se regroupe et on a une série d'exercices, que ce soit la vision à 5, 10, 15, 20 ans, une liste de mots qui pourraient définir les valeurs. C'est aussi ce qu'on appelle le Golden Circle, je le dis très très mal en anglais, qui nous permet d'avoir de faire émerger vraiment notre mission, ce qu'on appelle le why, la raison pour laquelle on se lève le matin, et pas simplement ce qu'on fait. Nous, on fait des vélos de fonction, très bien, mais pourquoi on le fait? Et donc cette série d'exercices permet vraiment de faire émerger la fibre, l'essence finalement de la marque directement via les personnes qui la vivent au quotidien. Donc ça, c'est vraiment pour le brand sprint interne. Après, évidemment, on double la chose avec des entretiens avec nos clients, avec nos fournisseurs, nos prestataires, pour aussi comprendre comment eux perçoivent Tandem avant que ce soit formalisé. Et ensuite, on formalise tout ça via une charte graphique, une charte éditoriale, une façon finalement, enfin, ce qu'on appellerait un brand book, en fait.
Ok, très cool. Du coup, effectivement, comme tu dis, donc cet atelier, derrière, confronté au terrain, voir un petit peu aussi comment les autres le perçoivent, parce qu'au final, c'est la marque, elle t'échappe aussi un petit peu au final quand tu commences à communiquer. On dit souvent, c'est qu'en fait, c'est pas comment toi tu te perçois, mais c'est comment les autres te perçoivent au final. Et du coup, c'est d'essayer de le cadrer pour que ça rende un petit peu ce que tu veux, quoi. Mais donc, effectivement, tu la confrontes au terrain et après, du coup, tu arrives au brand book avec les trucs très pratico-pratiques, on va dire, où tu vas retrouver la charte graphique, le tone of voice, ces sujets-là, quoi.
Exactement.
Ok, très cool. Et du coup, tout ça, ça a été. Donc, il y a eu une étape d'après où ça a été décliné du coup dans une campagne de notoriété, c'est ça, sur 2023.
C'est ça. En fait, ça a été pour le coup les donc, première étape, vraiment la partie un peu shooting, première charte, premier site. Deuxième étape, ce brand sprint. Et finalement, la troisième étape, pardon, a vraiment suivi ce brand sprint parce que on a fait le brand sprint pour pouvoir lancer cette campagne de notoriété avec une marque qui était déjà forte, déjà bien formalisée et sur laquelle tout le monde était aligné en interne pour pouvoir vraiment lancer cette campagne. Donc finalement, la campagne de notoriété a été l'occasion de peaufiner tout ce qu'on a réussi à formaliser via le brand sprint et via les interviews qu'on a pu avoir avec donc nos clients, nos fournisseurs. Et donc, pour pouvoir lancer cette campagne de notoriété, avant vraiment la partie campagne, on a refondu tout notre site internet en bossant une nouvelle charte graphique, donc en faisant évoluer la charte actuelle, enfin la charte qu'on avait à l'époque, via un web designer. Et ensuite, une fois le site bien en place, une charte graphique bien claire dont on était fier et notre brand book finalisé avec un vrai tone of voice, on a lancé cette campagne de notoriété qui incluait donc une campagne d'affichage dans le métro, qui nous a aussi permis de lancer notre nouvelle tonalité. Et on a lancé, rédiger un brand book vraiment pro, qui sortait un peu de ce que nous on avait fait en interne, par une agence créative. Donc en l'occurrence, c'est l'agence créative qui s'est occupée de toutes nos créas pour la campagne d'affichage.
Ok, très cool. Est-ce que tu peux du coup revenir un petit peu sur pourquoi cette campagne, pourquoi avoir fait ce choix du coup de campagne de notoriété, pourquoi l'affichage dans le métro, et puis après, comment est-ce que vous avez exploité du coup cette campagne de notoriété sur un peu plus long terme, quoi.
Donc après, donc on a travaillé et formalisé notre marque. Et cette campagne de notoriété, donc on l'a lancée début 2023, donc pour remettre un peu dans l'ordre les choses. Donc le brand sprint et toute la partie brand sprint brand book ont lieu sur le deuxième semestre 2022. Et 2023 devait être une année d'accélération pour Tandem. L'équipe était étoffée, nos objectifs ont doublé. Et donc pour poser les bases de cette année 2023, on a lancé cette campagne de notoriété. Donc l'idée, c'était de nous démarquer de la concurrence et montrer sur la scène, en tout cas monter sur la scène et montrer au secteur que bah voilà, Tandem est là et on arrive encore plus fort qu'avant. Et aussi, et surtout, pour promouvoir le vélo de fonction. Parce que comme je le disais au début, c'est une notion qui est encore très peu connue. Et donc, c'est montrer au grand public, aux entreprises, mais aussi aux salariés qui prennent le métro tous les matins, que cet avantage existe et qu'il peut avoir un impact fort sur notre mobilité quotidienne.
Ok. Et du coup, si vous avez choisi l'affichage métro, c'est parce qu'au final, vous aviez un ancrage géographique qui était très fort dans les débuts, parce que du coup, c'est une campagne qui a un impact très localisé.
Oui et non. Effectivement, on a... pour des questions de budget, hein, on restait encore une petite boîte à l'époque. On a vraiment misé sur Paris parce que 50% de nos clients étaient parisiens, voire je me demande si c'était même pas un peu plus. C'est plus trop le cas maintenant, mais à l'époque c'était le cas. Et aussi parce qu'on a fait pas mal de contenu autour de cette campagne. Et ces contenus, on a pu les diffuser sur d'autres zones géographiques via les ads. Et via aussi tous nos leviers organiques, que ce soit Instagram, LinkedIn, ou même sur notre site, par exemple.
Oups, désolé, je te dérange 2 minutes pendant ton épisode, mais c'est parce que j'ai quelque chose qui va peut-être t'intéresser. Quand on est le premier marketeur d'une entreprise, ou le seul d'ailleurs, ou qu'on accède pour la première fois à de nouvelles responsabilités en tant que head of ou de CMO, on se sent parfois perdu et isolé sur son poste, que ce soit entre les sujets opérationnels, marketing avec la to-do qui s'allonge, les sujets de management ou de relations avec le CEO, les autres C-level, même un peu tous les sujets stratégiques, on a vite fait de se sentir un peu submergé. Mais t'as pas besoin d'être seul, d'autres sont passés par là ou sont aussi en train de traverser cette épreuve. Et c'est pour ça, pour te permettre d'échanger avec des pairs, que j'ai créé la communauté du Café du Market, qui réunit du coup des marketeurs B2B justement pour échanger sur ces problématiques dans une logique d'entraide, avec un Slack dédié, des événements live, une bibliothèque de ressources, bref, tout ce qu'il faut pour t'aider à accélérer un petit peu tes problématiques marketing, mais aussi donner un coup de boost à ta carrière. Si ça t'intéresse et que tu veux nous rejoindre, tu peux adhérer par le site lecafédumarket.fr ou alors avec le lien qui est dans la description. Voilà, maintenant, je ne t'embête pas plus, retour sur l'épisode. Ok, oui, donc du coup, vous avez utilisé au final cette campagne, ces affichages, avec des photos, avec des illustrations, des machins, et vous pourrez amplifier un petit peu la portée via les réseaux sociaux et tout ce que tu pouvais faire en fait en retargeting digital, quoi.
Exactement. En fait, le dispositif a été vraiment pensé dans sa globalité. Nous, on s'est pas dit un matin, let's go, on prend, une grosse partie du budget marketing de 2023 et on fait une campagne métro. Non, l'objectif, c'était de se dire, ok, nous, on est une dizaine dans l'équipe, on est deux au marketing, comment on capitalise au maximum sur cet investissement qui est colossal, hein, une campagne, si on arrive toujours à négocier, qu'on a toujours des tarifs, par exemple, quand on est startup, etc., ça reste colossal. Donc, dès le début, on s'est dit, ok, ce ne sera pas simplement une campagne métro, il faut qu'on arrive à trouver une façon de l'utiliser au maximum pour qu'elle serve, certes, notre notoriété, mais à minima notre acquisition, même si ce n'est pas l'objectif principal, on le sait tous. Donc, on avait effectivement cette campagne d'affichage au métro, on l'a doublée d'une campagne street marketing, donc vraiment deux leviers assez, assez visuels, finalement, qui nous ont permis ensuite de faire des contenus assez catchy. Donc, on n'est pas parti juste sur des photos, on avait aussi scripté des petites vidéos qu'on a tournées en interne, puisque ça fait partie des choses sur lesquelles on est assez, assez bon. Mmh. Et ces petites vidéos, toutes ces photos, nous ont permis de faire des ads, essentiellement du display, et du méta. On les a aussi beaucoup utilisés sur nos social media, sachant que sur LinkedIn, on arrive à avoir une portée organique qui est assez intéressante, notamment via le compte d'Arthur ou via le mien. Okay. Et évidemment via le compte de Tandem, même si c'est toujours un peu moindre. Et surtout, ça a eu un gros impact sur nos... C'est un peu bête ce que je veux dire, ça peut paraître bête en tout cas, mais on les a mis dans les signatures des sales. On a fait une bannière à partir de ces photos-là, qui était cliquable et qui renvoyait sur une landing page vraiment dédiée à cette campagne et à l'acquisition autour de cette campagne, et dans tous les mails de prospection aussi.
Ouais,
et c'est quelque chose qui va vraiment donner une posture à Tandem. On va sortir dans l'imaginaire des gens de la petite boîte qui se lance où il y a les deux cofondateurs qui essayent de trouver des clients à une vraie boîte structurée avec une équipe et qui est suffisamment avancée pour faire cette campagne-là et montrer son expertise finalement au grand jour.
Ouais, c'est clair. Mais c'est malin ce que tu racontes parce que tu vois, j'en parlais. Je sais plus avec quel invité dans un précédent épisode justement qui m'avait raconté un petit peu un truc similaire. En fait, ils avaient investi sur une campagne d'affichage. En fait, on avait l'impression de l'avoir vu partout. Sauf qu'en fait, ils avaient acheté un panneau publicitaire et puis quelques abribus, tu vois. Et puis en fait, ils avaient pris des photos, ils avaient tourné des vidéos et tout. Et puis ils l'ont fait tourner partout sur les réseaux sociaux. Et du coup, t'avais l'impression d'avoir une campagne qui était énorme d'affichage, alors que du coup, c'était très restreint. Mais c'était justement comme ça pour toi, comme tu dis, pour l'exploiter dans le temps, quoi.
Exactement. Et du coup, ça permet aussi, là, on était sur une campagne qui était à la base de 2 semaines. Alors, on a eu de la chance, elle a réussi à tourner 2 semaines parce qu'ils avaient personne sur la semaine d'après. Donc, premier coup de chance. Et ensuite, nous, sur nos réseaux, en tout cas, sur nos réseaux et sur tout ce qui est contenu sales, ça a duré sur les 3, 4, voire 6 mois qui ont suivi.
C'est clair. Et quand tu as dit street marketing, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus, du coup, sur ce que vous avez fait?
Ouais, on a fait une campagne d'affichage sauvage. C'était un triptyque d'affiches avec donc une image de shooting, donc deux images de shooting qui prenaient en sandwich un QR code et une phrase. Alors j'ai plus la phrase en tête, mais une phrase un peu décalée qui te donnait envie de flasher le QR code pour comprendre de quoi on parlait. Et le concept jouait vraiment sur le fait que personne ne connaissait les vidéos de fonction. Et donc ce QR code renvoyait sur une landing page. Et à partir du moment où tu tombais sur la landing page, tu te faisais retargeter sur tes autres réseaux par nos publicités, qui étaient aussi liées au métro. Donc, okay. En fait, tu nous voyais dans le métro, tu nous voyais dans la rue en sortant du métro, et ensuite, tu nous retrouvais sur... si tu scannais les QR codes, tu nous retrouvais après sur tes autres leviers. L'idée, c'est vraiment d'immerger les gens dans une expérience Tandem au maximum et d'avoir une continuité dans les contenus.
Ok, donc vous avez fait de l'affichage sauvage, du coup, à la sortie des métros où vous aviez payé les affichages.
Exactement.
Ok, très cool. Et en termes de résultats, du coup, alors, quand on parle, effectivement, on sent que ça a fonctionné, du coup. Mais ça a donné quoi, du coup, en termes de résultats?
Non, donc, dans tous les cas, c'est plutôt de la notoriété. Nous, on aurait bien aimé avoir énormément de leads à l'issue de ça, mais c'est une campagne qui était quand même beaucoup plus B2C que B2B, et nous, on le sait, essayer de toucher des salariés pour rentrer dans les boîtes, ça marche pas très bien. Mais on a quand même eu quelques leads intéressants à l'issue de cette campagne, et ça a surtout servi vraiment le travail des sales après. Ça, c'est ce que je disais, ça a donné du corps à notre argumentaire commercial. Donc ça, c'est un peu difficile de te dire est-ce que tous les leads qu'on a réussi à convertir après sont issus de la campagne. Probablement pas. Par contre, c'est sûr que ça a joué, ça a facilité le discours commercial. Et par contre, c'est surtout côté noto. On a eu énormément de retours autour de nous sur mais Tandem, on vous voit partout. C'est la campagne qui a lancé la marque, c'était l'objectif premier, mais c'est aussi la campagne qui a lancé notre stratégie de contenu, que ce soit sur la façon dont on mettait en avant nos visuels, nos textes, etc., etc. En fait, je pense qu'on a pris confiance, on a pris confiance dans la marque qu'on avait réussi à formaliser donc sur la fin d'année, et les retours très positifs qu'on a eus nous ont permis de nous dire ok, donc là le travail qu'on a fait est assez efficace, let's go, on déploie à fond sur les leviers qu'on a envie de tester, en tout cas pour cette première grosse année marketing pour Tandem.
Ok, très cool. Donc tu dis des résultats en termes de noto, un petit peu en acquisition de lead, même si c'est pas forcément l'objectif principal, mais et comme tu le dis, en fait au final c'est vrai que la campagne d'affichage c'est pas forcément ciblé, enfin c'est ciblé géographiquement, mais tu sais pas qui va passer devant, du coup comme tu l'as dit c'est un peu plus B2C, B2B, mais par contre ça a eu un vrai effet dans les campagnes derrière de prospection, parce que ça a quand même assis, ça donne de la crédibilité aussi au final, la façon dont vous l'avez exploité dans la, comme tu dis, landing page, bannière et tout, au final ça donne un petit peu de corps quand même à cette marque, quoi.
Exactement, et toujours en termes de résultats, parce que j'y pense en discutant, côté noto, ce qui m'a permis de façon un peu plus chiffrée, en tout cas, de mesurer l'impact de la campagne, c'est le trafic sur le site, traquer les QR codes aussi, parce que j'avais fait en sorte de pouvoir connaître le nombre de personnes qui avaient flashé, que ce soit la campagne Street ou la campagne Métro, et le nombre de requêtes marques sur Google. Donc nous, on a une marque qui est assez généraliste, Tandem, mais qui, pour le coup, a un nombre de requêtes mensuelles et annuelles qui n'est pas vraiment saisonnier.
Ouais.
Et donc là, on a pu constater sur un mois, le mois de février, qui est un mois quand même très bas pour le vélo, là, on a pu constater un pic de requêtes et un pic de trafic sur notre site qui était quand même conséquent. C'est l'avantage d'avoir lancé sur une période creuse, c'est qu'on peut vraiment se rendre compte, pour le coup.
Ok, très cool, très intéressant. Donc ça, c'était 2023. J'allais dire maintenant, comment est-ce que tu capitalises là-dessus pour 2024? D'autant que bah, tu l'as dit, là, c'était plus noto et vous auriez bien aimé l'acquisition, mais c'était un bénéfice un peu collatéral. Donc forcément, tu auras des enjeux d'acquisition plus forts, j'imagine, en 2024. Comment est-ce que tu articules tout ça, au final, pour continuer à capitaliser là-dessus, travailler l'acquisition, tout en respectant quand même aussi ce que tu as construit autour de la marque?
Alors, je le reprécise, mais donc nous, 2023, c'est vraiment la première année avec une vraie équipe marketing chez Tandem. Donc, c'était aussi une année un peu de test. En l'occurrence, cette campagne, c'était un gros pari. Parce qu'encore une fois, c'est un budget assez conséquent, c'est de la notoriété, et c'est vrai que c'est pas le réflexe, je pense, de nombreuses boîtes de dire « Ok, je vais investir beaucoup dans ma notoriété via une campagne de ce type-là. » Ce qui nous a beaucoup rassuré, c'est qu'on a terminé l'année 2023 en explosant nos objectifs de croissance. Donc on était à 2,2 ou 2,3, une multiplication par 2,2 ou 2,3, pardon, de notre chiffre d'affaires de 2023. Donc trop cool, mais ça s'explique aussi parce que mi-2023, on s'est dit ok, là on a investi à fond en stratégie de contenu, à fond en notoriété, à fond dans la marque, mais il faut quand même qu'on garde en tête que ce qui nous fait manger finalement, c'est les clients. Donc il faut qu'on fasse de l'acquisition de leads à fond. Donc à partir du deuxième semestre de 2023, on a réorienté la stratégie vers les leviers qui s'avéraient être les plus efficaces en termes d'acquisition. Donc toujours avec cette idée de marque et de notoriété en avant, mais en se disant ok, ces 6 mois full noto étaient super importants pour Tandem. Maintenant, on a atteint notre objectif. Et donc, il faut qu'on utilise cette notoriété acquise pour qu'elle serve l'acquisition. Donc, je replace 2023 parce que c'est important et c'est ce qui a un peu lancé cette année-là, en tout cas 2024. Donc, on a testé de nouveaux leviers sur fin 2023. Donc, deuxième semestre, sachant que deuxième semestre, juillet, août, c'est en B2B, surtout pour du vélo de fonction. En tout cas, c'est pas les meilleurs mois de l'année. Mais donc, on a testé de nouveaux leviers. Et effectivement, remettre l'acquisition au centre de nos enjeux était nécessaire. En tout cas, ça s'est confirmé sur la fin d'année. Et donc là, en 2024, l'objectif, c'est de ne jamais décorer acquisition et notoriété ou acquisition et marque. Parce que chaque action d'acquisition, finalement, sera amplifiée parce qu'elle va s'inscrire dans notre branding. Et donc, elle sera automatiquement beaucoup plus mémorable. Mais à l'inverse, si je dois faire des actions de notoriété, il faut qu'elles soient pensées pour avoir un impact sur notre acquisition. Bah, par exemple, la campagne métro qui a servi ensuite dans la prospection des sites.
Okay.
Ce qui était un peu moins le cas début 2023 quand on a lancé la campagne auto. Même si évidemment, enfin, comme je le précisais, on a utilisé au maximum cette campagne pour qu'elle serve l'acquisition. Mais là, maintenant, on va le faire encore plus. On a vu en 2023 quels étaient les leviers qui, effectivement, nous permettaient de trouver de nouveaux leads, de faire de l'acquisition de leads. Et ceux qui n'ont pas trop marché, et aussi ceux qu'on a testés, mais pas suffisamment pour vraiment être sûr de leur efficacité ou non. Donc là, sur ce début d'année 2024, on a vraiment repriorisé nos leviers marketing au sens large. On les a réduits, on en a un peu moins, mais l'objectif, c'est vraiment d'être assez solide sur nos appuis. En tout cas, les leviers qui se sont avérés efficaces ou les leviers qui sont avérés à peu près efficaces, mais où on sait qu'on peut l'être vraiment. Et ensuite, dans un second temps, là, on ira tester de nouveaux leviers.
Ok, très cool. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on a tendance toujours, pour faire plus, à vouloir ajouter et multiplier les canaux, alors qu'au final, moi, je suis convaincu qu'effectivement, quand on a identifié quelques-uns, enfin, presque tous les canaux peuvent marcher en vrai, à condition de les faire comme il faut. Et du coup, le plus gros risque, et tu le vois dans certaines boîtes, c'est que bah, du coup, ils veulent faire un peu de ci, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, puis du coup, tu fais rien bien au final. Et donc, vous, pour être plus efficace et d'arriver à l'acquisition 2024, vous avez fait le choix de réduire aussi les canaux. Quoi.
Exactement. En fait, finalement, on connaît tous la recette de. On connaît tous les leviers marketing, on a tous envie de tester énormément de choses, et moi, la première. Et finalement, c'est ce qui a été le plus dur, c'est vraiment de faire ce pas en arrière et de me dire, OK. Trop cool, on a atteint nos objectifs, on aurait pu faire mieux et on va devoir faire mieux. Comment je réduis pour faire mieux plutôt que j'augmente mon nombre de leviers et je vois. Sauf ouais. qu'en fait, nous, Tandem, on est une dizaine dans l'équipe. Je suis la responsable du marketing et j'ai une alternante dans mon équipe et ça s'arrête là. Après, j'ai des prestataires pour m'entourer, mais j'ai des ressources qui sont en tout cas limité par rapport à d'autres, peut-être, mais pour autant, je dois atteindre mes objectifs, et plus je vais pouvoir me concentrer, plus je vais pouvoir vraiment poncer, entre guillemets, les leviers que j'ai déterminés, plus efficace je serai.
Ouais, c'est clair. Très cool. Écoute, merci un petit peu pour ce retour d'expérience. J'allais dire, au final, on a parlé pas mal de bonnes pratiques ou comment ça s'est bien passé. Le marketing, c'est pas que ça. Bon, tu l'as évoqué plusieurs fois, on a quand même des challenges aussi au quotidien. Et puis, il y a des choses qui posent un peu plus problème que d'autres. Rapidement, du coup, c'est quoi tes plus gros challenges du moment ?
Donc là, on se parle en début d'année. Donc, c'est clairement que les leviers marketing que l'on a identifiés que l'on a identifié comme efficaces le soient vraiment sur ce premier trimestre. Parce que c'est la stratégie que j'ai défendue en fin d'année. On a des objectifs à atteindre cette année, donc cette priorisation des leviers doit vraiment suivre. Et c'est toujours une petite pression parce que je pense que ça arrive à tout le monde, mais on a des grands moments de haut où tout a l'air de fonctionner, et du jour au lendemain, un des leviers se casse la figure, sans qu'on comprenne trop pourquoi. Donc, heureusement, il n'y en a pas qu'un, mais donc à chaque fois, il faut réussir à ajuster, et là, ça m'est arrivé sur ce début d'année. Effectivement, j'ai déterminé 5 leviers. Et ben, il s'avère qu'il y en a un sur les 5 qu'on va déprioriser très vite, donc seulement un mois et demi, 2 mois après le début d'année, parce qu'on se rend compte qu'en fait, c'est trop de temps investi pour très peu de retour sur investissement.
Ok.
Et c'est absolument nécessaire au vu de mes ressources actuelles pour que je puisse moi ensuite me libérer du temps dès le prochain trimestre et donc tester de nouveaux leviers d'acquisition. Et l'autre sujet sur lequel je cherche à trouver des solutions, j'en ai pas beaucoup parlé ici, c'est le sujet de l'upsell. Donc
Ouais.
nous, notre modèle fait que une fois qu'on a réussi à convertir une entreprise, on a gagné 0 €. Ce qu'il faut convertir ensuite, c'est les salariés de cette entreprise. Et c'est là qu'on gagne de l'argent. Donc sur l'année 2023, avec les équipes commerciales, on a réussi à convertir de plus en plus de salariés lors de la première vague de commandes de vélos au lancement. Mais maintenant, il faut qu'on arrive à trouver la solution, comment continuer à convaincre dans les mois, voire les années qui suivent le lancement, d'autres salariés, les nouveaux arrivants, mais aussi ceux qui étaient là avant et qui n'ont pas réussi à être convaincus dès la première vague. Et surtout, comment on va automatiser tout ça pour délester au maximum les équipes commerciales. Parce qu'on va se retrouver avec on a des clients qui ont 1000, 2000, 3000 salariés. On ne peut pas faire ça à
Ouais.
la mano, c'est pas possible. Donc il va y avoir un sujet aussi de professionnalisation, en tout cas de ce process qui n'existe pas encore vraiment. Donc vraiment un enjeu assez global. Et vraiment, c'est crucial parce que une fois que cette première étape assez difficile de convaincre l'entreprise est passée, c'est dommage de passer à côté de ça.
Ouais, c'est un peu le land and expand, quoi. En fait, tu t'arrives,
Exact.
tu t'en touches un, et puis après, c'est comment est-ce que du coup tu vas pouvoir aller t'étendre auprès des autres salariés. Et au final, comme tu dis, vous avez certainement des gros enjeux autour de ça, quoi. C'est clair. Intéressant, intéressant comme challenge. C'est marrant, c'est un truc que tu retrouves chez pas mal de SaaS. Tu vois, enfin, tu prends Slack ou Asana ou n'importe quel outil un peu comme ça de gestion de projet, quoi. Où en fait, t'as une personne qui va aller prendre le premier outil gratuit, qui va aller prendre son premier compte, et puis après, c'est du coup, comment, une fois que t'as une personne dans une entreprise, comment est-ce que tu vas aller chercher du coup à t'étendre et à faire revenir les autres, quoi.
C'est exactement ça.
Intéressant. Très cool. Écoute, ben, on verra si tu trouves la solution. On en reparlera dans un prochain épisode. Si on devait résumer notre échange, du coup, c'est quoi le conseil que tu voudrais donner à un marketeur qui doit mener ce sujet justement de branding?
Du coup, ce serait vraiment de ne pas chercher à faire compliqué, au maximum aller au plus simple, accepter qu'une marque ne doit pas être imposée finalement, mais bien qu'elle doit émerger. De ce qui existe déjà. Souvent, le marketing, c'est pas le premier recrutement d'une entreprise. Et donc, avoir l'humilité de dire, OK, j'ai des ressources restreintes, il y a des choses qui ont déjà été faites, une marque doit émerger des gens qui finalement la font vivre. Donc, comment je la formalise à côté de ça? Et pour le déploiement, c'est exactement la même chose. C'est s'assurer que les ressources à notre disposition, même si elles sont un peu plus légères, permettent de créer des choses vraiment quali, qui sont très réfléchies et qui donc de sûr auront un impact. Et moi pour ça, et c'est ce que je trouve le plus difficile à faire, c'est vraiment d'aller vers la simplification au maximum.
Ok, très cool. Bah écoute, merci encore une fois pour ton partage d'expérience. Pauline, c'était très chouette. Merci de passer sur le podcast. Si jamais il y a des petites questions pour toi, on peut te retrouver du côté de LinkedIn.
Exact, je suis assez active sur LinkedIn, donc pas hésiter à m'écrire, ce sera avec plaisir.
Ça marche. Bah écoute, encore une fois, merci beaucoup. Et puis bah maintenant, il me reste à te souhaiter une bonne journée.
Merci beaucoup Axel, bonne
Salut
journée.
Pauline. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà, merci beaucoup. Et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.